Le 13-30.
Le 13-30.
Un rendez-vous irrégulier, mais toujours à la même heure, en direct sur Radio Grenouille, à 13h30. C'est irrégulier.
Et en direct.
Chouette, chouette.
Mais c'est toujours à la même heure.
Transsibérien, je suis de Brest à Vladivostok en passant par Marseille. C'est un spectacle de Philippe Fenwick. C'est une proposition du Théâtre de la Criée et c'est à la Friche Belle de Mai du 11 au 14 mai. « 1300 jours pour arriver à partir vers l'Extrême-Orient sur les traces d'un homme qui n'est jamais parti. » Voilà comment Philippe Fenwick propose d'entrer dans ce spectacle transsibérien, je suis. Bonjour Philippe Fenwick.
Bonjour.
Philippe Fenwick, vous n'êtes pas venu seul.
Non, je suis venu avec ma collaboratrice artistique qui est d'origine russe et qui s'appelle Nathalie Cognot, qui est complètement bilingue français-russe et qui a été très utile pour cette création qui parle essentiellement de la Russie.
Здравствуйте. Bonjour.
Bonjour. Alors Philippe Fenwick, qui êtes-vous?
Je suis auteur, acteur et metteur en scène, et j'ai toujours voulu faire des projets qui sortent de l'ordinaire. Et donc, en 2008, il y a 8 ans, j'avais décidé, après avoir fait 7000 km à pied sur les routes de France pour aller porter le théâtre de village en village, de faire quelque chose qui avait été fait, été tenté par plusieurs compagnies. C'était un peu le mythe, c'était un peu comme le premier qui traversera l'Atlantique en avion dans les années 1910, c'est de faire Brest-Vladivostok, 15 000 km en train, 5 pays traversés, 90 représentations, et avec dans le train, le décor, les costumes, les accessoires et les comédiens. Et c'était parti.
Je crois que vous êtes parti le 18 mars 2012 de la gare de Brest.
Nous sommes partis de la gare de Brest, accompagnés par 200 spectateurs avec des valises et par Simone Hérault, qui est la voix de la SNCF, qui était là pour ce jour-là et qui sera d'ailleurs avec nous à la Friche le 14 mai en chair en os, qui est la voix la plus écoutée de France. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens qui prennent le train.
Votre compagnie s'appelle Zone d'ombre et d'utopie. Donc là, l'utopie, on entend un petit peu la dimension d'utopie, zone d'ombre.
Justement, quand on est des utopies, il y a beaucoup d'ombre. Et je pense que plus l'utopie est grande et plus il y a d'ombre. Donc, sur ce projet, j'ai connu beaucoup d'ombre et beaucoup de difficultés.
Alors, vous avez parlé de la marche à pied, hein, cette itinérance marche à pied, ensuite le train. Qu'est-ce que ça change? Qu'apporte l'itinérance dans le spectacle lui-même? En quoi un spectacle de théâtre est affecté dans sa forme par l'itinérance?
Alors, le spectacle est affecté dans sa forme par l'itinérance dans le sens où on n'est jamais installé, c'est-à-dire que c'est toujours la première et la dernière fois qu'on joue, puisqu'en général, on reste qu'une seule journée, et une fois que tout est fait, que les spectateurs sont contents, qu'on s'est reconnus mutuellement, on doit déjà repartir. Donc c'est très fatigant, très épuisant, mais ça crée de l'éphémère et ça crée des regrets. Les gens sont en général, et on essaie de tout faire pour qu'ils soient tristes de nous voir partir. Et donc à chaque fois qu'on arrive dans une autre ville, tout est à recommencer. Rencontrer les gens, se faire aimer, et puis faire en sorte qu'ils aiment le spectacle, et puis après recommencer, redémonter, repartir. Et l'itinérance aussi est une sorte de moyen pour rencontrer les gens en dehors du fait d'arriver au théâtre. C'est-à-dire qu'on les rencontre sur le trajet, on les rencontre dans le train, on leur parle, et s'ils descendent du train, on leur dit « venez nous voir ». C'est-à-dire que l'itinérance, c'est un moyen de fédérer des gens qui n'iront pas forcément au théâtre, avec des gens qui y vont. C'est-à-dire que c'est un théâtre qui ne cloisonne pas, comme beaucoup en France. Aujourd'hui, le théâtre est très cloisonné. Vous avez du théâtre un peu pour tout le monde, pour notables, pour dentistes, pour brancher, pour prof à la retraite, pour prof. Enfin, il y a un théâtre par personne en France. Et l'itinérance permet de relier et de rassembler les publics.
Est-ce que l'itinérance fait aussi que, d'une certaine manière, vous êtes attendu?
Oui, alors justement, ça crée l'attente parce que tout le monde est au courant qu'on va arriver. Et c'est vrai que à Marseille, c'est ce qu'on a un peu fait aussi, c'est-à-dire communiquer très en amont pour que ça crée une attente. Et le Théâtre de la Criée qui coproduit le spectacle et qui est justement très sensible à l'ouverture sur le monde et à l'itinérance aussi, le Théâtre de la Criée était très très partant pour cette aventure, quoi, parce que c'est un théâtre qui veut aussi rassembler et réunir.
Avec l'itinérance, on peut aussi parler d'un théâtre pauvre?
En tout cas, un théâtre à échelle humaine. Je crois que c'est pas en termes de pauvreté, oui, c'est vrai que... Concrètement, c'est vrai qu'on n'avait pas une thune, mais bon, c'est pas, on n'a pas envie de communiquer là-dessus. C'est un théâtre pauvre dans le sens où Grotowski l'entendait, etc. C'est un théâtre simple. C'est un théâtre simple. C'est-à-dire que là, par exemple, tout notre décor tient dans un 25 mètres cubes. Donc, ça peut être conduit par n'importe qui a son permis. Et ça, c'est important aussi, le fait de pouvoir se mouvoir et se déplacer très facilement, que le matériel, la technique ne soit pas un frein au déplacement.
Alors essayons de revenir un peu à ce périple Brest-Vladivostok. C'était quoi ce chemin vers Vladivostok?
Eh bien, ce chemin, c'est le plus grand projet qu'on puisse faire en train. Déjà, c'est entre Brest et Vladivostok, il y a 15 000 km. C'est les deux bouts du monde, c'est les deux Finistères. C'est deux villes assez semblables, parce que c'est deux ports, deux ports qui ont été d'ailleurs des grands ports militaires et qui ont un peu, qui se ressemblent d'ailleurs. Et donc, c'est de relier l'Atlantique au Pacifique en passant par la Terre. Voilà, donc c'est la plus grande démarche et marche qu'on puisse faire. Et voilà,
c'était... Mais si c'était vert, c'est que c'était pas tout à fait sûr d'y arriver?
Ah oui, bah justement, c'était vert. On part vert, on ne sait pas si on va y arriver. D'ailleurs... On est parti à 15, avant l'Oural, on a dû se séparer d'une grande partie de l'équipe, et puisqu'on a fini à 2 à Vladivostok, en racontant le spectacle qu'on n'avait pas pu jouer, parce qu'on n'avait plus d'argent pour continuer. Mais on est arrivé quand même jusqu'au bout, à 2 on l'a fait.
À 2, vous êtes arrivé à 2?
À 2, oui, alors qu'on est parti à 15, oui.
Et vous avez raconté le spectacle, voilà.
Au spectateur de Vladivostok, et en leur promettant qu'un jour... on allait peut-être revenir les voir avec le spectacle en entier.
Et ils attendent toujours d'ailleurs.
Hein. Ouais, ils attendent.
Ils nous attendent avec le nouveau.
Qu'est-ce qui vous a marqué des spectateurs russes?
Alors, les spectateurs russes, c'est une grande chaleur humaine. Il faut savoir qu'en Russie, le théâtre est un lieu où on se retrouve, est un lieu qui fait partie de la ville, est totalement ancré dans la cité, et est un lieu où le soir, tous les gens se retrouvent. De manière très naturelle, c'est plein tous les soirs, et il y a toujours un entracte dans les théâtres en Russie. C'est à ce qui correspondrait à peu près à une mi-temps de football. Et les gens se retrouvent au bar, discutent de la vie de tous les jours, etc. Et le théâtre est vraiment, alors, regroupe toute catégorie de la population. Justement, le théâtre en Russie n'est pas un lieu qui divise, c'est un lieu qui rassemble. Et ça, c'était très, très touché par ça. Il y a une grande, grande culture théâtrale en Russie. Et les artistes sont extrêmement honorés, sollicités. Je veux dire, quand vous dites en Russie que vous êtes artiste, vous êtes considéré comme un médecin ou un avocat. Tandis qu'en France, souvent, quand vous dites que vous êtes artiste, vous êtes considéré comme un saltimbanque qui vit au crochet de l'État. Donc, c'est pas du tout pareil.
C'est une joie, ça, le public russe et...
Ah oui, bah, c'est sûr. En Russie, il y a une vraie tradition du théâtre. Et c'est vrai, comme le disait Philippe, d'abord, les billets ne sont pas chers du tout. Les gens vont volontiers au théâtre beaucoup plus qu'au cinéma. Ici, on va souvent au cinéma là-bas, c'est vraiment le théâtre. Et il y a toutes les catégories sociales réunies. Ce qui est extraordinaire, c'est que les gens simples, on va dire... on a rencontré des ouvriers ou des dames qui font les ménages, elles connaissent Macbeth par cœur. Ils connaissent la dramaturgie, ils connaissent Shakespeare, ils connaissent Tchekhov. C'est ça qui est quand même extraordinaire, qui a été apporté par l'Union soviétique. Oui. Puisqu'on va aussi présenter non seulement Transsibérien Je Suis, mais Back in the URSS, samedi 14 mai à la Friche. Donc c'est vrai qu'il y a un amour du théâtre, des acteurs, et les artistes sont toujours bien reçus. Moi, j'ai dirigé une alliance française là-bas, et à chaque fois que des acteurs venaient là-bas, je peux vous dire qu'ils avaient envie de revenir. Et d'ailleurs, et tout le monde le dit, même il y avait l'acteur Denis Lavant qui a fait toute une tournée en Russie. Il a écrit un livre passant par la Russie, il parle de ça, de cette chaleur du public russe. Et c'est vrai que c'est un bonheur pour les artistes de venir jouer en Russie pour ça aussi, quoi.
Comment on dit théâtre en russe?
Ah ben c'est simple, c'est théâtre.
Ah oui, ce n'est pas un faux ami.
Non, 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 c'est théâtre. Il y a beaucoup de mots que cite Philippe dans son spectacle qui sont les mêmes en russe et en français.
Mais d'ailleurs, ce spectacle, vous l'avez joué en russe?
Alors, on a joué une partie de ce spectacle en russe, absolument, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était pas jouer pour les expats quand on va à l'étranger, mais jouer pour les Russes. Mais j'ai fait ça aussi en Serbie, en Roumanie, en Serbie, je jouais en serbe, et en roumain, en Roumanie, en roumain. Et en russe, je voulais jouer vraiment pour les gens qui viennent au théâtre, qui ont une habitude de théâtre. Et pour moi, c'est un effort de faire l'effort d'apprendre la langue dans le pays où on va. C'est, on vient pas en tant que consommateur ou en tant que, voilà, envoyé par la France pour montrer la culture française. Pas du tout. Moi, je voulais pas faire ça. Je voulais jouer, voilà, comme si j'étais du coin, quoi.
Et ça, ça a participé du caractère un peu complexe pour le montage, parce que j'imagine que les alliances françaises, elles voulaient des spectacles en français.
Très, absolument. Et du coup, oui, c'était très compliqué. Mais moi, c'est très important. Oui, c'est vrai qu'ils voulaient des spectacles en français, mais il y a aussi une réalité du terrain. Je veux dire, quand vous jouez dans une ville en Russie, une petite ville de 500 000 habitants, et qu'il y a, il y a 25 élèves qui parlent français, c'est pas avec 25 élèves qu'on va remplir des théâtres de 1000 places.
Oui, et puis c'est pas tout à fait ça, parce que les alliances françaises, ce qui est important, c'est que les artistes soient français. Ça, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas promouvoir des artistes anglophones, allemands. C'est vraiment ça qui est important. Mais par contre, que le spectacle se joue en deux langues, c'est pas gênant. Après, il faut savoir surtout que aujourd'hui, les alliances françaises, elles ont très peu de moyens. C'est fini la belle époque d'il y a 20 ans où des cargos arrivaient en Amérique latine. Non, non, maintenant c'est vraiment des tout petits moyens qu'ont les alliances françaises.
Justement, la belle époque. Jacques Mercier, c'est qui, Philippe Fenwick ?
Alors Jacques Mercier, c'est à l'époque où je devais partir vers Vladivostok, je cherchais une histoire à raconter. Et j'étais en résidence au Fourneau, le Centre National des Arts de la Rue à Brest, pour m'inspirer de la ville de Brest. Et là, un jour, je vais au marché aux puces de Brest et je tombe sur un vieux numéro du télégramme de Brest qui datait du 30 janvier 83 et qui disait « Disparition de Jacques Mercier, grand artiste de la Belle de Recouvrance, un cabaret à Brest, et qui a passé pendant 20 ans de sa vie à chanter tous les soirs, sans un seul jour de relâche, au cabaret La Belle de Recouvrance, et il chantait en russe. Et il a disparu mystérieusement à l'intérieur de son appartement, on ne l'a jamais retrouvé, parce qu'il n'a pas supporté que les cabarets ferment. Quand la marine nationale a été transférée de Brest à Toulon, tous les lieux de nuit brestois ont fermé. Il s'est enfermé dans son appartement. Il était atteint par un syndrome qui s'appelle le syndrome de Korsakoff, qui est lié à l'alcoolisme. Et il avait des visions. Il était persuadé qu'il était en train de faire une tournée de Brest à Vladivostok. Et il a décrit ça dans un journal, en décrivant les lieux, les numéros, les gens, etc. Et moi, j'ai eu de la chance de rencontrer ses voisines, ses deux voisines, que j'ai rencontrées il n'y a pas longtemps, enfin en 2008, et qui m'ont confié le journal de Jacques Mercier. Et donc j'ai pris ce journal et j'ai dit j'ai décidé avec ma troupe de partir sur les traces d'un homme qui n'était jamais parti.
C'est cet homme qui n'est pas parti.
Et qui a imaginé ce voyage sans sortir de chez lui avec une précision absolument hallucinante. Et il chantait tous les soirs chez lui, et il imaginait autour de lui un orchestre, il imaginait des acrobates, il imaginait de la magie. Et il était, voilà, et à chaque fois que ses voisines venaient le nourrir, parce qu'il était complètement prostré, il disait, voilà, je suis en train d'être en Russie, je fais un rêve récurrent toutes les nuits, je rêve que je suis à Brest, mais je ne suis pas là, je suis en Russie.
Alors, il y a donc des chansons dans ce spectacle ?
Il y aura des chansons, il y aura il y a plein de surprises, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais en tout cas, c'est un spectacle, oui, où il y a plein de choses qui se passent, oui. D'ailleurs, il y a beaucoup d'imprévus aussi. C'est
de la magie.
De la magie, voilà.
Du cabaret.
Du cabaret.
Du cabaret, oui. Mais c'est pas le. Voilà, c'est en fait. Dans
un spectacle qui prend la dimension du burlesque.
Du burlesque, oui, et surtout du tragique, oui.
Du tragique aussi.
Qui est l'envers du burlesque. En fait, il y a d'un côté moi qui suis en train d'écrire, en train de me battre avec les institutions pour trouver les moyens d'aller à Vladivostok, je suis en train d'écrire la pièce, et de l'autre côté de la scène, on voit ce que j'imagine, je suis en train d'imaginer, et comment mon imaginaire prend le pas sur ma vie.
Parce que ce spectacle, c'est aussi un spectacle où vous allez raconter les galères. Combien ce voyage a été une galère aussi.
Oui, ça a été une véritable galère, parce que je pensais que finalement, moi j'ai toujours entendu dire que dans mon enfance, qu'il fallait tenter de réaliser ses rêves, qu'il fallait voir grand, et que le travail finissait toujours par payer. Mais moi, je me suis aperçu qu'en fait, on nous disait ça pour nous occuper, mais en fait que c'est pas toujours vrai, quoi. Je veux dire, on nous pousse à avoir des grands rêves mais c'est pour nous occuper, parce que c'est tellement difficile à faire, quoi.
C'était si compliqué que ça?
Oui, ça a été cauchemardesque.
Mais c'est surtout la préparation, c'est pas le voyage, c'est la préparation.
Le voyage en Russie a été fantastique, mais c'est la préparation avec les institutions et l'administration française.
C'était quoi les grands problèmes, enfin, vous avez quelques anecdotes de là où c'était vraiment difficile?
Les grands problèmes, c'est que je correspondais jamais à une case, c'est-à-dire que je faisais du... Ils comprenaient... Déjà, le théâtre itinérant était compliqué à expliquer, parce que je faisais pas du théâtre au sens propre du terme, ni du théâtre de rue, ni du cirque. Donc, je faisais du théâtre itinérant. Alors, je rentrais dans aucune case. Après, les gens pensaient que c'était une folie, ce projet. Personne n'y croyait, enfin, faire cette tournée gigantesque. Donc, j'y rêvais trop grand. Et donc, les galères, ça a été ça. Ça a été que... maintenant, il faut faire des projets petits, avec peu de gens, parce que sinon, c'est pas viable. Donc, moi, je rêve trop grand. Alors, maintenant, je vais rêver... Non, mais moi, mon prochain rêve, c'est d'élever des tomates, de cultiver des tomates dans un petit potager, voilà.
Très simple.
Oui, oui, très simple.
Enfin, il faut se méfier maintenant, parce qu'apparemment, les graines, il faut les acheter maintenant. C'est pas si simple.
Mais attention, vous savez qu'il y a des échanges de graines, il y a eu troc de graines. Je suis très renseigné là-dessus aussi.
C'était compliqué pour vous aussi?
Moi, ce que je peux dire, c'est que dans le spectacle, Philippe le raconte très très bien. C'est-à-dire, c'est un combat permanent, mais c'est toujours un combat quand un artiste a envie de réaliser un grand projet, mais même un petit projet, c'est toujours un combat. Et c'est vrai que c'est très drôle dans le spectacle, parce que Philippe raconte son combat avec l'administration, avec le bureau de la Drax, la recherche du bureau A, et la confrontation entre l'artiste et ses rêves, avec le fonctionnaire derrière son téléphone ou derrière son guichet. Voilà, alors c'est là-dessus que le spectacle a beaucoup d'humour. Et c'est vrai qu'il est tragique, mais il a aussi beaucoup d'humour.
Financièrement, c'était une galère.
Oui, mais alors j'ai pas placé le spectacle en France, parce que comme je parle des institutions, je voulais pas, je me suis un peu pas auto-censuré, mais vous savez, on peut pas d'un côté critiquer l'institution et demander des subventions, c'est pas possible. Donc j'ai pratiqué ce qu'on appelle l'auto-censure, et donc j'étais obligé de m'auto-censurer et de pas tout dire, et puis surtout pour pas avoir de problème, de placer le chien de ma pièce dans un pays qui s'appelle la Dramatie, qui est une petite république située entre la Picardie et la Normandie, où il y a un truc qui s'appelle la Drax, ou en France ça s'appelle la Drac, mais ça n'a rien à voir avec la France, donc je le redis, ce n'est pas de vous dont je parle.
Jacques Mercier.
Alors là, c'est une chanson de Vysotsky que chante Jacques Mercier dans le spectacle. Il faut savoir que Vysotsky, c'est vraiment un chanteur qui a été connu dans toute l'Union soviétique sans qu'il y ait un seul disque édité officiel. C'est un chanteur qui a été connu, comme on dit, sous le manteau, et on imprimait ses disques sur des radios. voyez, sur des radios et on les écoutait parce qu'à l'époque il y avait même pas de cassettes. Et donc c'était on les faisait tourner sur des petits comme des petits vinyles, mais c'était des radiographies. Et donc Vysotsky, qui a d'ailleurs été aussi le mari de Marina Vladi, la chanson c'est le voilier, c'est la voile qui vient de se déchirer. C'est une chanson qui exprime aussi la révolte, la douleur. Pourquoi il a été interdit? Il a été interdit par le pouvoir soviétique, c'est parce que justement il arrivait non seulement à critiquer mais à dire tout ce que les gens pensaient. C'était un des premiers à parler de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, en parlant aussi de la douleur, de la mort, parce qu'avant la guerre patriotique, on n'en parlait que de façon positive, et on oubliait de parler des morts qu'elle avait subies. Donc c'est vraiment une grande figure de la chanson russe, Vysotsky.
Et là, interprété par Sergueï Vladimirov, parce qu'il a été chanteur et guitariste dans un groupe de rock en ex-URSS entre 1980 et 1983, parce qu'il est né à Bratsk, en pleine Sibérie, parce qu'il a réalisé une série de tournées avec une troupe de théâtre d'agitprop dans un train sur la ligne Baïkal Amour Magistral, parce qu'il a été formé par un acteur à l'école Chtekpikine d'art dramatique du théâtre Mali de Moscou, parce qu'il a été à trois reprises l'assistant d'Anatoly Vassiliev à la Comédie Française de Lyon, parce qu'il a supervisé la traduction du livre d'analyse action de Maria Knebel et adapté par Anatoly Vassiliev aux éditions Actes Sud, c'est cela ?
C'est pour ça que j'ai choisi, exactement.
C'est pour ça que
il y avait un bon CV, ouais.
Et c'est un peu pour, à chaque fois, les uns et les autres, vous les avez aussi choisis quoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des liens avec la Russie ?
Non, mais c'est moi, je choisis les personnes, je ne passe pas de casting déjà, moi je choisis les personnes en fonction de ce qu'ils sont, et puis en fonction de ce qui m'inspire, et puis après j'écris pour eux sur mesure, donc j'aime bien aussi les personnages, les personnes, et que leur vie, d'où ils viennent, leur parcours, etc. J'aime beaucoup ça.
Vous ne regretterez pas ce voyage ?
Ah non, je ne le regrette pas du tout. Ah non, je ne le regrette pas du tout, du tout, parce que ça fait partie de ce que je devais faire et ce que je devais réaliser. Donc ça me... Non, je pense que c'est une très très belle aventure. Non, je suis content de l'avoir fait.
En fait, le spectacle que vous allez proposer, Transsibérien je suis, se dessine en creux comme une critique de la société française aujourd'hui dans son justement ces désajustements entre fête des rêves et puis
c'est un petit peu oui une critique entre la poésie et l'administration quoi. Comment est-ce que ces deux entités ne peuvent finalement peuvent pas trouver des passerelles pour s'entendre, enfin en tout cas pour l'instant, mais c'est vrai que c'est un spectacle assez critique, assez et puis qui surtout essaye d'aller vers le haut quoi. C'est pas horizontal quoi, c'est pas postmoderne.
Vous êtes associé aussi avec une compagnie de cirque contemporain qui s'appelle la compagnie Escal, je crois.
Oui, absolument.
C'était aussi cette compagnie qui était partie avec vous,
voilà.
Ce Transsibérien.
Voilà, qui sont des gens aussi. Alors eux, c'était pendant très longues années, ils habitaient en caravane, ils avaient un chapiteau, ils allaient de village en village. Donc c'était important pour moi aussi d'associer des gens qui avaient une pratique très forte de l'itinérance.
La nuit des forains, Bergman ?
Ah bah évidemment, j'adore.
Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Ben, la nuit des forains, c'est toute cette espèce de mythologie qui est liée justement au voyage, au cabaret, des gens qui vraiment, c'est pas leur métier quoi, c'est pas un métier, c'est toute leur vie. Et c'est pour ça que comme c'est toute leur vie, ils se déplacent aussi en famille et ils ont des drames humains qui sont liés aussi, qui sont très très en parallèle avec ce qu'ils font. Et ils doivent gérer d'un côté leur vie et d'un côté l'artistique et la forme qu'ils ont choisie. Mais tout ça finalement est très très lié quoi. Il n'y a pas tout ça est lié. C'est ça qui m'intéresse aussi quand c'est lié.
Le train à destination de Vladivostok est annoncé voie 1983.
Voie 1983. C'est donc cette date où décède Jacques Mercier et où vous...
Jacques Mercier a disparu, on ne sait pas s'il est mort. Hein. Il a disparu à l'intérieur de son appartement qui était fermé de l'intérieur. Donc on ne l'a jamais retrouvé. On n'a jamais retrouvé son corps, ni lui. Donc je ne sais pas.
Comment elle vous a fait rêver, l'URSS ?
Ben moi, c'est la Russie qui me fait rêver. Ce n'est pas forcément l'URSS. C'est,
parce que c'est quand même... Il y aura, vendredi 14 mai, Back in the URSS.
Oui, parce que c'est à l'époque où Jacques Mercier a fait sa tournée. Mais c'est pas... C'est justement comment l'âme russe a traversé des événements absolument incroyables tout en restant la même. Elle n'a jamais été, elle est toujours restée très forte et toujours très émouvante et très nostalgique et très romantique. Et voilà. Donc, à travers tous les régimes, tout ce qu'elle traverse, elle reste la même. Et c'est pour ça que les Russes sont toujours nostalgiques. En URSS, il y avait des gens qui étaient nostalgiques des tsars. Maintenant, il y a des gens qui sont nostalgiques de l'ex-URSS. Et puis après, il y a des gens qui sont nostalgiques de ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que les Russes sont très, très, très entiers. D'un côté, ils défendent à fond ce qu'ils ont. Ils ont un côté très, très patriotique. Et d'un côté, une espèce de nostalgie. C'est des caractères vraiment très, très... C'est pas tiède. Il n'y a pas d'eau tiède en Russie. C'est très... Voilà.
C'est d'accord ?
Ah oui, bah oui, c'est le pays à la fois des extrêmes. Et c'est vrai que on dit, il y a un proverbe, enfin il y a un poète plutôt qui disait on ne peut mesurer la Russie avec des mètres, on ne peut la comprendre, on ne peut en voir le bout, mais par contre on peut y croire. Et c'est vrai que l'âme russe, c'est ça, c'est la foi, c'est quelque chose d'assez irrationnel. Et c'est un peu ce qu'on va essayer aussi de retranscrire samedi avec ce bac et du SSR qui est un voyage qu'on va essayer de faire vivre aux spectateurs justement à travers le Transsibérien, à travers les wagons du Transsibérien et tout ce qui peut s'y passer.
Avec un bal.
Avec un bal, avec des tubes de variétés soviétiques des années 80. Moi, je vous le conseille parce que... Vous savez, on a l'impression toujours qu'il se passait rien là-bas, mais il y avait des courants alternatifs, il y avait du rock, il se passait plein de trucs, et donc nous, on veut aussi faire découvrir aux gens qu'il y avait même des punks et tout ça. Hein.
Alors, Philippe Fenwick, l'esthétique constructiviste russe, vous aimez ?
Ah bah évidemment, moi j'aime le constructivisme et par-dessus encore tout le suprématisme russe.
Pierre Darc ? Les drag queens new-yorkaises ?
Oui, ça aussi j'aime bien, oui.
Les cathédrales gothiques.
Oui, j'aime bien aussi, oui. Non, mais j'aime bien, je suis assez syncrétique, vous savez, mais pas postmoderne, syncrétique. Pour moi, Picasso et McDo n'ont pas la même valeur. Mais en tout cas, entre les cathédrales gothiques, l'ex-URSS et les drag queens.
Les masques balinés.
Et les masques balinés, oui, il y a un lien vers la transcendance, il y a un lien vers la transformation, et il y a un lien vers l'élévation.
Puis après, vous aimez aussi Rome.
Et j'adore Rome, oui. J'ai failli aller à la Villa Médicis, mais ils m'ont dit que j'étais trop subversif.
Tati.
Mais Tati, évidemment. Tati, je lui rends hommage à la cartonnerie, là, d'ailleurs. Je fais un hommage à Tati, un hommage soviétique, parce que Tati n'était pas du tout soviétique, mais il était russe. Il était d'origine russe.
Ah, Tati. Il était russe.
Oui, Tatichev. Son nom entier, c'est Tatichev.
Ah oui.
Ah oui, donc voilà. Donc, il y a un hommage à ses origines russes, à la cartonnerie.
Vous aimez bien les branquignoles aussi.
J'adore les branquignoles. C'est merveilleux, les branquignoles.
Mais comment ça, les branquignoles ?
La troupe des branquignoles, Robert Derry, les premiers branquignoles, Robert Derry, Jean Carmet, Micheline Dax, Louis Funès, toute cette bande qui a inventé le burlesque à la française et dont plein de gens descendent aujourd'hui.
On va rire donc ?
On va rire, oui, on va rire. C'est un moment, c'est pas vraiment une comédie, mais c'est une comédie dans le sens où c'est une comédie tragique. On rit de voir de me voir me battre contre des moulins.
Il y a un truc un peu Don Quichotte, hein.
Oui, il y a un truc un peu Don Quichotte complètement. Oui. Mais je suis aussi responsable de tout ça. C'est-à-dire que quand je parlais de l'institution, je suis aussi moi-même responsable d'avoir cru que l'institution était quelque chose qui était formidable et qui pouvait m'aider. Donc j'aurais dû le savoir avant que c'était plus compliqué. Donc
vous étiez naïf.
J'étais surtout enthousiaste, ce qui est un peu différent, mais j'espère que je suis toujours... D'ailleurs, ils me l'ont reproché un jour à la drague d'être trop enthousiaste.
Mais vous avez réussi à embarquer quand même beaucoup de monde avec vous.
Oui, j'ai réussi à embarquer beaucoup de monde avec moi, parce que c'est vrai que c'est un projet mythique, Brest Vladivostok, et que les gens avaient envie de le faire, et que c'était... et que j'ai aussi pris des gens autour de moi dont je savais qu'ils avaient cette foi et cette envie d'aller très loin, quoi, d'aller au bout du monde avec du théâtre, et ça fait envie.
De toute manière, lorsqu'on fait du théâtre, c'est pour aller jusqu'au bout, non, Philippe Fenwick ?
Oui, toujours. De toute façon, les acteurs en général ne prennent pas leur retraite, hein, donc ils continuent jusqu'au bout, oui. Oui, non, et j'espère continuer jusqu'au bout et de mourir débutant, parce que c'est ça qui est bien, c'est qu'on finit toujours, on continue à apprendre, et moi je n'ai jamais terminé d'apprendre, et les gens qui ont terminé d'apprendre, c'est les gens qui se sont trompés de métier.
без тоски, без печали. В этот час прозвучали.
Vous avez eu raison de croire. Et rassurez-nous, le potager avec les tomates, c'est une blague.
Non, c'est un rêve inaccessible, c'est une utopie.
On va se dire au revoir en russe, peut-être.
Ну конечно, до свидания, ждем вас в субботу. Каждый день и на дискотеке русской.
Et pour terminer, comme a dit Gagarine avant de monter dans sa fusée, c'est parti.
Transsibérien, je suis du 11 au 14 mai, c'est à la Friche Belle de Mai, c'est une proposition du Théâtre National de la Criée, c'est un spectacle de Philippe Fenwick à ne manquer sous aucun prétexte. Et puis le samedi 14 mai, Back in the USSR, de Marseille à Vladivostok, déambulation, atelier, bal, tout ça c'est à la Friche Belle de Mai.
Солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви. Мне немного взгрустнулось, без тоски, без...
Le 13-30.
Le 13-30.
Un rendez-vous irrégulier, mais toujours à la même heure, en direct sur Radio Grenouille. À 13h30.
C'est irrégulier.
Et en direct.
Chouette, chouette. Mais c'est toujours la même heure.
Faut que je sois dispo, quoi.
Ouais.
88.8 FM.